Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons parler des violences en milieu universitaire. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans la colline, sur la colline de Badalabougou. Hier, des affrontements sanglants entre étudiants ont causé la mort d'un étudiant et fait des blessés. Nos invités sur ce plateau, Nou Togo, ancien membre de l'AM, Djougamadi Sissoko de l'Association des parents d'élèves, Dr Sédou Loua, pédagogue, professeur Madouni Maga, juriste. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose d'écouter ce témoignage du secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Abdoul Salam Togola, sur les incidents d'hier.
Deux groupes d'étudiants ont un petit problème de différence entre eux depuis quelques temps. Il y a le renouvellement de leur faculté qui tend à venir donc en ce moment-là. Ici, les groupes se préparent pour être élus comme comité de la faculté. C'est ce qui a dégénéré entre eux. C'est malheureusement le cas du jeune qui a rendu là. Il avait une arme portée sur lui-même, une arme artisanale qui n'avait pas de sécurité. Donc, maintenant, la fuite dans l'arme a déclenché dans son bas-ventre. On a trois blessés, gravement blessés.
Alors, vous venez d'écouter tout de suite ce témoignage du secrétaire général de l'AIM, Abdoul Salam Togola. Monsieur Togo, que pensez-vous de cette situation ?
La situation, d'abord, je remercie tous nos auditeurs qui nous écoutent. La situation est très grave. Grave en ce sens que aujourd'hui, il est bon que les responsabilités soient situées ce qui se passe à l'école. Parce qu'au départ, l'AIM a été créée pour régler les revendications de Fatin Matrel Moreau des élèves étudiants du Mali en 1991. Et l'idée que nous avons eue pour la création, c'était de faire en sorte que les conditions soient réglées pour que les élèves travaillent dans les conditions normales. Mais aujourd'hui, il est important de faire le point avec des mutations, avec la crise qui continue à perturber l'école, et on voit aussi beaucoup de sang couler à l'école. Ça crée des paniques, ça crée de la situation de désolation au niveau de l'école malienne. Je pense réellement qu'il y a des responsabilités qu'il faut situer.
D'accord. Alors, Monsieur Loua, que pensez-vous de la situation actuelle de ce cas que vous venez d'entendre tout de suite?
Bien, merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Effectivement, c'est ce qui s'est passé hier, c'est un drame de plus, un drame de trop. Et depuis plusieurs années, on assiste à ces genres d'actes de violence. Alors, ce sont des actes de violence qui sont en réalité quotidiens. Mais généralement, lorsqu'il y a mort d'homme, comme le cas d'hier, apparemment, il y a eu deux morts, c'est suite à des actes de mort qu'on en parle. Mais en réalité, ces actes de violence, moi, je suis professeur à l'université, je vois les actes de violence au quotidien. Bon, généralement, les cas de décès, les cas de blessures graves surviennent, comme vient de le dire leur secrétaire général, lors des renouvellements de bureaux. Chaque fois qu'il y a un renouvellement de bureaux, dans n'importe quelle faculté, en tout cas sur la colline, je parle des facultés qui sont sur la colline, il y a souvent soit certains étudiants se font découper par des machettes, soit certains se font tirer dessus. Donc, comme le disait tout à l'heure M. Togo, il faut quand même situer les responsabilités. Alors, une fois les responsabilités situées, eh bien, il faudra en ces moments chercher à faire des propositions de solutions pour que ces actes de violence puissent cesser sur le campus universitaire. Parce que on est là quand même à l'université pour étudier. On ne quitte pas la maison le matin pour aller se faire assassiner à l'école. Et ce n'était pas en dehors de l'école, c'est vraiment sur le campus universitaire. Donc, je pense que c'est un phénomène qui doit interpeller tout le monde. Les politiciens, les parents d'élèves, les journalistes. Vous faites un travail extraordinaire dans ce sens, donc il faut le dire. Les parents d'élèves, Monsieur Sissoko est là pour en parler, donc tout le monde doit effectivement être interpellé, parce que tout le monde, à mon avis, a sa part de responsabilité là-dedans.
D'accord. Comme vous venez de le dire, les parents d'élèves, Monsieur Sissoko est là en tant que membre de l'Association des parents d'élèves. Quelle est votre observation par rapport à ce phénomène?
Merci beaucoup. Moi, c'est Djougamadi Sissoko. Je suis membre de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali. Et je vous remercie encore une fois de plus, et c'est pas la première fois que nous parlons de sécurité au niveau des institutions scolaires, et c'est pas le premier mort, ça vous pouvez me croire, et c'est au grand dam de tous les parents d'élèves que nous constatons avec amertume que personne ne lève le doigt pour éliminer ce fléau au niveau de l'école. À croire que nous sommes dans un pays qui n'est pas civilisé, on ne peut pas comprendre ça. Nous sommes des parents d'élèves. D'ailleurs, tout le monde est parents d'élèves. Il faut que énergiquement maintenant, chacun se dise une chose. Ces élèves-là ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Les contrevenants ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Ce n'est pas le premier mort, ni le deuxième mort. Ça fait maintenant plus de... Chaque année, maintenant, nous perdons au moins 3 à 4 étudiants.
Mais est-ce que vous avez une idée sur les violences enregistrées en milieu universitaire ces dernières années?
Mais nous avons une idée, même si ce sont des idées vagues, nous avons des précisions là-dessus. Nous savons que les élèves se donnent la mort, viennent avec des armes blanches, des armes à feu à l'école. Aussi au vu de tout le monde, même des recteurs, personne ne dit rien, même de l'État. L'État même sait que ces enfants-là viennent, ils le savent très bien. Ils ne font rien pour pouvoir au moins démasquer ces éléments-là et puis leur prendre les armes-là.
D'accord. Alors, Monsieur Nimaga, que pensez-vous?
Je vous remercie, le studio Tamani, pour l'invitation que vous m'avez faite de participer à cette émission. Donc la question de la violence en milieu universitaire, je pense que c'est une question cruciale. Donc l'actualité en témoigne, il y a eu mort d'homme sur le campus, des jeunes étudiants de la licence 1 de la première année, donc sont victimes de violence. Donc ça c'est un fait qui interpelle tous les segments de la société malienne. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que le débat soit posé. Il est temps vraiment que le débat soit posé. Cette violence remonte de loin. C'est vrai, quand on regarde la naissance même de l'AIM qui a été créée dans les années 90, dans la mouvance des revendications démocratiques, donc l'AIM a largement pris part à l'avènement du multipartisme au Mali et l'AIM a même participé au comité de salut pour la transition, CTSP. Donc ça a donné une certaine légitimité à l'AIM aujourd'hui que c'est devenu une sorte d'État à l'intérieur d'un État. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, pour la stabilité même du pays, il est temps que des solutions soient trouvées à ces violences en milieu universitaire.
D'accord. Alors Monsieur Togo, Monsieur Nimaga vient de le mentionner, ça a commencé depuis longtemps, mais est-ce que vous avez une idée depuis quand ce phénomène-là a commencé, les violences?
Des morts d'hommes, c'est pour la violence, c'est depuis 80, on peut dire en 90-91, il y a eu des violences, mais des morts d'hommes, nous avons commencé à enregistrer en 2006, avec le mort du jeune Papou, si vous vous souvenez, en 2006.
En
2004, excusez-moi, il a été tabassé par les policiers, mais finalement, il est décédé. Après, nous avons enregistré successivement des assassinats entre eux-mêmes. Cette fois-ci, ce n'est pas la police. Pour la mise en place des structures, ils se sont assassinés. Mais la question qui mérite d'être posée dans tout ça, pourquoi ils s'assassinent? Il y a quoi derrière tout ça? Est-ce que c'est, si réellement c'est pour les revendications matérielles et moraux des élèves et étudiants, est-ce que c'est la peine que les élèves donc, se retrouvent pour s'abattre? Maintenant, moi, je me suis posé la question de savoir, parce que en 2001, précisément, il y a eu la création de ce qu'on appelle le CENU, la gestion de l'espace universitaire où, que ce soit les cantines scolaires, que ce soit les bourses ou que ce soit les moyens de déplacement et les parkings, l'État a voulu créer des structures pour gérer ça. Mais de façon, je me souviens, Malamine disait, de façon progressive, ils allaient trouver la formule pour qu'on puisse les retirer, donc c'est la gestion. Mais à ce stade, la chose, je pense, beaucoup ont été retirés. Ils laissent les parkings qui sont gérés, qui coûtent extrêmement cher parce que c'est des coûts de millions que les élèves arrivent donc à trouver 50 000 à 100 000 par jour dans ces parkings-là. Et donc, ils se trouvent beaucoup d'argent. Donc, à cause de ça, donc, ils se sont aujourd'hui, pour la mise en place de ces structures, ils ont trouvé comme moyen de s'abattre pour forcément gérer ces sous-là. Mais la responsabilité de l'État est engagée pour moi parce que, quelle que soit la gestion, et l'État est responsable de la sécurité des élèves et sur les campus universitaires. Aujourd'hui, on sait que dans ces dortoirs, dans les salles de classe, souvent, ils ont des coupes-coupes, ils ont des pistolets, ils rentrent avec ça. Si on fouille aujourd'hui, là où nous sommes dans ces sites universitaires, on peut trouver beaucoup, beaucoup beaucoup de copie-copie et beaucoup de fusils. Mais avec tout ça, la responsabilité, l'État ne veut pas lever les petits bouts de doigts pour essayer de voir et trouver la solution. Mais ce qui s'est passé hier, si on prend le cas, ça veut dire que c'est très grave et c'est dramatique. Et tout le monde le voit, on passe finalement gérer avec les parents. Ceux qui ont été abattus, on trouve leurs parents, on leur donne un peu de moyens. Et donc la situation, on dit non, c'est Dieu qui a fait, donc il faut accepter le principe et on laisse tomber la situation. Et ça, ça ne peut pas continuer.
Mais vu que c'est une réalité et que les gens, il y a mort d'hommes depuis un certain temps, pourquoi ne pas, par exemple, l'association des parents d'élèves, ne pas organiser quelque chose pour faire, pour mettre sur place une commission de visite ou de fouille de ces endroits-là?
Ma fille, ils ont transformé nos écoles en arène politique. Il faut se dire la vérité. Ces politiciens-là utilisent et manipulent nos enfants au leur gré. Comment? Quand vous suscitez des moyens colossaux au niveau des universités que l'AM perçoit les 30%, les 10%, les 5%, ça veut dire quoi? Vous avez créé en amont des raisons?
Bien sûr. Ouais.
Il y a combien d'étudiants? Il y a 66 000, selon mes informations, je ne sais pas si c'est caduque ou renoué, il y a 66 000 étudiants. Et ils payent chacun 5 000 francs comme frais de, je sais pas, carte ou de quoi. Allez. Et les 10% reviennent à l'AM.
En fait, c'est 6 000 francs.
Bon, 6 000 francs. Ouais. Fais le calcul un peu. Au point de vue fiduciaire, c'est une manne importante.
Ouais.
Mais quand des élèves doivent se partager les 5% ou les 10% sans en rendre compte à qui que ce soit, vous croyez que même si c'était moi, leur père, je vais rester en deçà de tout ça? Je vais régler le compte de quelqu'un pour être secrétaire général? L'État a créé tous ces phénomènes-là uniquement seulement pour opposer nos enfants les uns contre les autres. Il faut maintenant que cela cesse. Que nos enfants cessent d'être des rois télé. Qu'on ne prenne pas nos enfants pour quand on a une campagne électorale, que l'on utilise ou on exploite nos enfants. Ce n'est pas bon, ce n'est pas loyal. Et c'est ce qui nous gêne. Beaucoup de choses sont passées, hein. Il est temps maintenant que tous les parents d'élèves, parce que nous, on pense seulement que c'est la Fédération nationale qui est le bureau des parents d'élèves. Ça, c'est le bureau des parents d'élèves. Mais tout le monde est parent d'élèves, même dans cette salle-là, ici, hein. Même vos techniciens-là sont parents d'élèves.
Mm-hmm.
Alors maintenant, il faut que tout le monde se lève maintenant pour se dire la vérité. Il est temps maintenant on ne peut pas dire de supprimer l'AM, ou de non, on ne peut pas le dire. Mais seulement, il faut leur dire la vérité. Ce sont nos enfants. Si on ne leur dit pas la vérité aujourd'hui, qui va leur dire ça? Quand vous donnez un véhicule de plus de 100 millions à l'AM, ils m'entendent très bien.
Mm-hmm.
Ça veut dire quoi? Vous-même, vous avez créé maintenant une situation conflictuelle en amont. Les enfants maintenant vont savoir que bon, leur rôle au niveau de l'AM, c'est important. Ce sont des faiseurs de rois. Et vous les impliquez dans vos campagnes. Même au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je suis de la société civile. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas peur d'être renvoyé. Personne ne peut me renvoyer, personne ne peut me coller une sanction. Donc je dis ce que je pense, si c'est vrai, si c'est en harmonie avec ma conscience.
D'accord. Alors, M. Loua, vous venez d'écouter le propos de M. Sissoko. Partagez-vous le même avis que lui?
Oui, je partage exactement le même avis que M. Sissoko et M. Togo. En réalité, le problème, ce sont les intérêts financiers qui sont en jeu. L'AIM est là pour revendiquer normalement les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions d'études pour les étudiants. Mais l'AIM a perdu effectivement son sens depuis très longtemps. C'est pourquoi on assiste toujours à des morts, à des assassinats, à des blessures graves. L'AIM gère les parkings. L'AIM gérait le campus, les internats, il n'y a pas très longtemps, universitaires, il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des mannes financières extrêmement importantes que l'AIM gère. Donc lorsque l'État donne chaque année des millions à l'AIM pour organiser leur congrès,
12 à 15 millions.
Alors que les parents d'élèves sont là et n'ont rien pour organiser leur propre congrès. Donc ça, déjà, l'AIM, il a parlé de roi télé. Les étudiants vont se sentir roi. Les étudiants vont se sentir supérieurs à tout le monde. Raison pour laquelle ils font ce qu'ils veulent et ils n'écoutent personne. Il a parlé des parents d'élèves. Effectivement, les parents d'élèves ont leur rôle à jouer. Tout le monde est parent d'élèves d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je pense que l'État doit aussi prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, pas en supprimant l'AIM, parce que ce sont les étudiants, ils ont aussi le droit de s'exprimer, de revendiquer. Mais l'État doit prendre ses responsabilités en essayant de trouver des solutions à la source. Trouver des solutions à la source, il faut que les étudiants sachent pourquoi ils sont à l'école.
Voilà.
Ils sont à l'école d'abord pour étudier. Maintenant, l'AIM est là pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Donc, si l'État arrive a coupé ses sources de financement de l'AIM, c'est-à-dire donner des millions à l'AIM chaque année, l'État doit arrêter ça. La gestion des parkings, ça doit arrêter. La gestion des internats, cela doit s'arrêter. Bon, on tend vers ça parce que le CNU maintenant prend en charge les internats. Donc, si les intérêts financiers ne sont plus aussi importants, moi je pense que les violences vont aussi diminuer. Les violences vont diminuer parce que tout est lié à ça. Personne ne va tirer sur l'autre parce qu'il veut revendiquer les meilleures conditions. On se tire dessus seulement parce que telle personne veut devenir secrétaire général, telle personne veut devenir l'adjoint du secrétaire général, parce qu'on sait que quand on devient secrétaire général, il y a beaucoup d'avantages au bout. Beaucoup d'avantages à l'école comme dans la vie de tous les jours. Et les anciens membres de l'AIM, on les connaît. Eh bien, ils sont tous dans les bureaux. Ou bien ils font de la politique, ils réussissent en politique. Ouais. Donc, tout cela, effectivement, active effectivement cette attitude-là des étudiants de vouloir toujours être dans l'AIM et de vouloir toujours s'affirmer. Ouais. Et quand eux, ils veulent s'affirmer, c'est à coup de machette, c'est à coup d'armes à feu.
Ils utilisent pour leurs besoins.
Effectivement. Et chaque fois qu'un étudiant est tué, en tout cas depuis plusieurs années, ce sont des étudiants qui les tuent. Chaque fois qu'un étudiant est blessé, c'est la faute d'un autre étudiant. Et l'image, nous avons vu l'image d'hier. L'étudiant, apparemment, c'est sa propre arme que quelqu'un a pris pour lui tirer dessus. Donc, ce sont des étudiants qui sont armés, des armes à feu, des machettes. Et même l'année dernière, la police a découvert une cache d'armes sur la colline de Badalabougou. Donc, la colline de Badalabougou, qui est appelée comme la colline du savoir, est aujourd'hui la colline de la terreur. Et on parle seulement lorsqu'il y a des morts. Mais ces violences, c'est au quotidien. Moi, je suis enseignant. Je sais que les enseignants aussi sont victimes de violences de la part des étudiants. Soit tu sors d'un cours, tu viens trouver que ta voiture est caillassée, tu viens trouver que tes pneus sont crevés, tu viens trouver que tes feux rouges sont cassés, ou bien les étudiants te bousculent dans le couloir, tu ne peux rien dire. Parce que si tu te plains, eh bien ta plainte n'ira nulle part. Parce que les étudiants sont super puissants. Donc tout cela, effectivement, il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités, les parents d'élèves, effectivement, doivent prendre leurs responsabilités. Mais est-ce qu'ils sont écoutés? Lorsque les parents d'élèves essaient de prendre ses responsabilités, le membre de l'AIM, il sait qu'il a des millions à gagner, il ne va pas l'écouter.
Absolument.
Il ne va pas écouter les parents. Donc, moi, je pense que l'État doit tout faire pour trouver une solution à ça et ne pas en parler seulement en cas de mort. Il ne faut pas faire le pilotage à vue. Voilà. Donc, essayer de trouver des solutions en amont pour bannir ces violences dans le milieu universitaire.
Oui. Monsieur Nimaga, vous venez d'écouter tout de suite Monsieur Loua. Pensez-vous que tout ce qu'il vient de dire est faisable?
Bon, moi je pense que tout ce qu'il a dit, il y a des faisables comme il y a aussi des impossibles. Mais moi je pense qu'il faut qu'on sache que l'État c'est nous-mêmes aussi. Hein. Ces gouvernants-là, ils viennent du peuple. C'est pas des gens qui nous ont été parachutés. N'est-ce pas? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la question doit être posée au centre des débats. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des violences, je pense qu'il y a des mécanismes de sanctions qui sont prévus par nos textes, par nos lois.
Mais est-ce qu'elles sont respectées?
Mais malheureusement, ces mécanismes n'entrent pas en vigueur.
Pourquoi?
Jamais à l'université, le conseil de discipline de l'université n'a exclu un étudiant pour l'instant, depuis la création de l'université de Bamako jusqu'à nos jours. Aucun étudiant n'a été exclu pour faire des violences.
Oui.
Pourquoi ces conseils ne se tiennent pas? Aussi, lorsqu'il y a mort d'homme, le procureur de la République immédiatement doit s'activer. Mais malheureusement, il y a mort d'homme, les policiers viennent faire le constat et les affaires n'avancent pas. Donc tant que l'impunité continue, je pense que la violence va continuer aussi.
Oui, allez-y.
Je voulais juste, il y a eu un cas de mort au mois de janvier, à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, un étudiant qui a été éventré. Là, le coupable a été exclu. Effectivement, là je suis au courant parce que je suis de cette faculté-là. Le coupable a été exclu. Voilà, c'est quand même rare.
Mais c'est très rare.
Oui, c'est extrêmement rare. Hein. C'est extrêmement rare. C'est le seul cas que je connais. C'est le seul cas que je connais. Je le reconnais. Mais effectivement, moi je pense que on s'est rejoint en réalité. Lorsque vous parlez de la norme, les lois ne sont pas réellement appliquées. Il y a un problème d'impunité. Mais tout ça, ça revient à l'État. Ce ne sont pas les parents qui vont appliquer les lois à la place justice, des instances juridiques.
La justice est indépendante.
Okay.
Ce n'est pas le gouvernement qui juge.
Oui, donc, monsieur,
il ne faut pas tout reposer aussi.
La justice est indépendante en théorie.
Oui,
je veux dire à Nimaga, ce n'est pas la peine de... Ce n'est pas dans une boule de cristal qu'on va voir tout ça. L'État a des responsabilités que moi, citoyen lambda, je n'ai pas. L'État a des moyens et tout le monde a droit à sa sécurité, tout le monde a droit à son intégrité. physique et morale dans n'importe quelle, au niveau de quelle institution. C'est toi qui dois garantir cela. C'est toi qui mets les moyens. Mais quand des individus mal intentionnés profitent de nos enfants pour les faire commettre des crimes ou pour les faire commettre des exactions, je dis que l'État est fautif. Et ça, je te comprends parce que tu es ancien membre de l'AEM. Je te comprends très bien. Hein. Et moi, je vous ai toujours dit, AEM, Amsunem, UNEM, tout ça, là, vraiment, ce sont des... Bon, moi, je connais le Bataclan. Et vraiment, ce n'est pas la peine. Nous, on connaît ce que vous voulez arrêter. Faites tout pour que vous donnez des conseils quand même à vos cadets. Et vous n'avez jamais fait ça. Vous avez toujours profité de ces élèves-là.
Le représentant.
Nous sommes dans un débat. Bon, oui. Tu as été AEM. Et même Togo a été AEM aussi. Bon, maintenant, il a beaucoup changé, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à indiquer des changements à leur cadet. Imposer des changements à leur cadet. Ils ont trop souffert. L'école, au niveau de l'école aujourd'hui, nous avons trop souffert au Mali.
D'accord. Alors, M. Togo.
Je n'ai pas terminé. Parce que vous savez très bien qu'on a une école à deux vitesses au Mali ici. L'école des enfants des riches, l'école des enfants des pauvres. Et c'est vous qui devriez inculquer à ces enfants-là. Quoi, attention, ces gens-là, ils nous laissent nous guérir entre nous-mêmes et ils envoient leurs enfants à Washington ou bien au Canada pour étudier. Mais vous n'avez jamais tenu des rencontres comme ça. Vous laissez tout le monde les parents d'élèves. Les parents d'élèves, c'est qui? Nous, quand on est au niveau de la Fédération nationale, quand nous voulons tenir même notre congrès, on n'arrive pas à le faire. Et on donne des millions à des enfants pour aller tenir leur congrès au niveau des institutions pour renouveler leur bureau. Mais allez comprendre quand même, bon sang. Moi, j'ai dit que bon, je n'accuse pas Togo, encore moins Nimaga. Je veux leur dire seulement que leur rôle initial, c'est maintenant de conseiller à nos enfants. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous sommes les vieilles personnes. On n'a rien à voir dans ça. Et dans ces pays-là où les morts sont plus heureux que les vivants.
Oui,
parce qu'eux, au moins, ils ne se soucient pas de ça. Mais vous devrez faire tenir ce rôle-là.
Je suis tellement d'accord avec vous.
Bon, c'est ça, méchanceté.
Non, ça, je comprends. C'est un débat, c'est normal. Vous savez, monsieur Sissoko, moi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais la situation évolue. Il y a des années, moi, j'ai eu la chance d'être secrétaire à l'organisation du bureau de coordination 5 ans. Donc, j'ai vu l'évolution de Omar Mariko, de Issa Mariko, de Zara Wana, donc de Opéry Berté. J'ai été responsable secrétaire à l'organisation. Et donc, j'ai vécu, j'ai géré, donc j'ai organisé. Mais le bureau de coordination n'a jamais dépassé 22 membres. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 membres. Et en son temps, et que la manipulation, c'est qu'on était manipulé par nos propres problèmes. Aujourd'hui, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec vous, les hommes politiques, souvent même pour tenir des meetings, on va aller chercher au campus universitaire des étudiants pour les amener pour remplir les salles. Et aujourd'hui, on sait comment on a mis même le bureau en place. Donc, c'est les hommes politiques souvent qui arrivent donc à gérer cette situation, de choisir entre les deux candidats. Donc, nous avons vécu le cas. Mais aujourd'hui, c'est que l'administration, si on parle de l'administration, les premiers responsables, que ce soit, je ne cite pas le nom des gens, mais tout le monde connaît ces personnes-là, ceux qui sont en train de manipuler l'école. Tout le monde connaît leur nom, tout le monde connaît ce qu'ils font. Maintenant, aujourd'hui, et aussi, ils ont des anciens élèves. Moi, mon problème, c'est que je n'ai jamais accepté d'aller vers la manipulation, parce qu'aujourd'hui, accepter même souvent de discuter avec les élèves de l'AIM, ils pensent réellement que vous avez un intérêt politique pour les manipuler. Voilà. Et donc, moi, je me suis éloigné de l'école depuis 1996, en se disant que chacun a son expérience. Je pousse les uns et les autres à aller vers la connaissance. Pour moi, la manipulation, c'est ce qui est la plus grave. C'est manipuler quelqu'un pour lui dire de faire ceci et de faire cela. Donc, ce qui est très grave. Aujourd'hui, moi, mon devoir, c'est, souvent, si les jeunes viennent me voir, je l'ai dit, la priorité des priorités, c'est d'aller à l'école. Moi, à un moment donné de l'histoire, j'ai été responsable des élèves pour continuer et à me former. J'étais obligé d'avoir la chance, j'ai eu la chance d'aller à l'extérieur à travers donc, les bourses. Beaucoup n'ont pas la chance aujourd'hui d'avoir ces bourses-là pour aller se former. Aujourd'hui, c'est que les enfants doivent comprendre, si tu ne travailles pas à l'école, c'est que tu vas périr, parce qu'aujourd'hui, les conditions ne permettent plus à des nuls de répondre à l'appel.
Ils ne peuvent même plus aller à l'extérieur.
Monsieur Sissoko, je vous en prie. Monsieur Togo, alors, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'AM d'avant et l'AM de maintenant?
C'est très différent. L'AM d'avant, c'est qu'effectivement, on voulait le changement, on voulait que les conditions... Vous savez, à l'école, il y avait, si on prenait Doyen à Bamako, il y avait 7 à 8 lycées, l'ensemble de Bamako. Et les grandes écoles, il y avait seulement 5 écoles. Les écoles professionnelles techniques, il y avait 4 à Bamako. L'ensemble des écoles à Bamako ne dépassait pas une vingtaine. Aujourd'hui, par quartier, on a plus de 40 à 50 écoles professionnelles et écoles et des lycées. Ces conditions sont divisées. Les universités privées, dans les conditions où ça a été, on a laissé tout le monde à créer des écoles. Les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui. Les conditions même de surveiller les types d'enseignants que nous avons, ça pose problème. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que personne ne veut voir la réalité en face. Or, avec l'évolution de la situation, les résultats sont visibles parce que le niveau pose problème. La façon de poser le problème aujourd'hui à l'école.
Chacun cherche sa tête.
C'est ça la question. Voilà. Et l'État, en tant que premier responsable, l'État, le type de fonctionnaire que l'État doit former pour avoir des types de responsabilités demain, des types de fonctionnaires qu'on doit avoir, aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de vérifier, d'aller juger et quel type d'homme on veut, on ne peut pas l'avoir.
Oui, monsieur.
Ma fille, depuis 91, depuis 1991, les enfants ont cessé d'appartenir à leurs parents. Ils ont traîné nos enfants à travers des activités qui n'avaient rien à voir avec l'école. On les a enseignés à ériger des barrages, des pneus brûlés, jeter des cailloux, faire ceci, cela. Mais l'élève est plus performant que son maître souvent. Moi, je n'en veux pas à ces enfants-là. Ce sont ceux-là qui leur ont indiqué, mais qui n'ont pas encore sifflé la fin de la récréation. Il faut avoir le courage de dire, il faut arrêter maintenant. Marco a passé ici, Zarawana a passé ici, tout le monde sait ce qui s'est passé après. Et maintenant, vous, même au niveau de l'Assemblée nationale, des éléments trouvent encore qu'il est temps maintenant de mobiliser la jeunesse pour pouvoir avoir un second mandat ou un troisième mandat, je ne sais pas combien de mandats. Mais moi, vraiment, c'est le Benjamin de mes soucis. Je ne suis pas d'obédience politicien d'un parti politique. D'acquaintance, je ne suis nulle part. Mais je voudrais seulement leur dire qu'il faut arrêter. Si vous n'arrêtez pas, les enfants là vont s'occuper de nous un jour.
D'accord, oui, monsieur Limaga, vous voulez réagir?
Je vous remercie. Allez-y. Moi, je pense que cette question de violence en milieu universitaire, c'est une question qui s'est passée dans beaucoup de pays, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, dans beaucoup de pays semblables du Mali, de la sous-région. Donc, il y a eu de la violence. Mais ces pays-là ont arrivé à s'en sortir. Donc, pourquoi pas le Mali n'arrive pas à s'en sortir encore? Parce que tout simplement, comme on a dit, il y a le phénomène de politisation.
Voilà.
De l'espace universitaire.
C'est tout.
Moi, je pense que l'université, c'est un sanctuaire. Donc, l'université, c'est un lieu de savoir où vraiment c'est les échanges fructueux qui doivent être de mise entre les différents membres de l'université. Mm-hmm. Mais malheureusement, au Mali, on constate que c'est les actes de violence au quotidien, comme M. Loi a signalé, qu'on voit tous les jours. Donc, aujourd'hui, moi, je propose à ce que l'AIM soit carrément restructuré. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, l'AIM est structuré de manière centrale. C'est-à-dire, il y a un bureau de coordination qui coiffe le comité des différentes structures de l'université et même des lycées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut décentraliser l'AIM. En ce sens, on a des universités. Même l'université de Bamako a été déconcentrée en 4 universités. Donc aujourd'hui, il y a lieu vraiment d'atténuer la force de l'AIM en créant des bureaux autonomes dans chaque établissement. Donc, il n'y a pas de coordination. Et que l'État soit regardant sur les élections au niveau de l'AIM, l'organisation de l'élection. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Au sortir de chaque élection de l'AIM, c'est des bureaux qui sont proclamés. Le vainqueur est réel et puis le perdant se proclame. Ouais. Donc, ça, c'est des potentiels affrontements qui sont créés entre les différents groupes rivaux.
Mais ce que vous dites, est-ce que cela est possible? Parce qu'il y a des établissements qui n'acceptent pas l'AIM.
Bon, les établissements qui refusent l'AIM, c'est les établissements privés. C'est les établissements, c'est les entreprises, c'est les universités privées. Mm-hmm. Mais ils ont le droit de refuser l'AIM.
Mais même avec ça, l'AIM encore arrive à trouver l'étudiance pour aller déranger même ces écoles privées-là. C'est ce qui n'est pas normal, ça devient un peu égoïste.
Oui, monsieur.
Moi, la solution, en réalité, monsieur Nimaga vient de dire qu'il faut, si j'ai bien compris, une AIM par structure.
Non, pas un comité autonome dans chaque structure. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que souvent, le comité se perturbe. Souvent, nous sommes de la faculté de droit privé, mais souvent, les étudiants de la faculté de droit public viennent nous perturber.
Oui.
Pour un problème qui ne nous regarde même pas.
Bon, mais nous avons vu les enfants des jardins d'enfants participer aux activités de l'AIM. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les enfants de l'AIM? Et n'eût été la Fédération nationale des parents d'élèves qui a dit à un moment, attention, les enfants du fondamental ne sont pas concernés. Oui. Mais il y a des enfants là-bas qui ne veulent pas travailler aussi. Il suffit seulement de leur dire, jeter une pierre seulement et puis paf, l'école se... Et puis, ça c'est avec l'accord des maîtres aussi, parce que les maîtres veulent que les enfants aussi aillent, jettent les pierres. Hein. Je le dis, j'ai les preuves. les maîtres aussi sont certains maîtres sont d'accord que les enfants les perturbent leur marche pour qu'ils aillent s'occuper d'autre chose.
D'accord, oui, monsieur Loua.
Même si on décentralise, comme le dit, ou un déconcentre, comme le dit monsieur Nimra, tant que ces intérêts financiers sont en jeu, la violence va continuer. En réalité, ce n'est pas parce qu'il y a un bureau de coordination et des détachements dans les facultés qu'il y a problème. Il y a problème parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont en jeu. Moi, je pense que c'est le seul problème qui crée aujourd'hui ces violences-là. Les intérêts financiers. Une manne financière assez considérable que les jeunes gèrent, comme le disait M. Sissoko, sans rendre compte à personne. Voilà. Le secrétaire général de l'AM gère des millions.
Je suis d'accord avec lui. Par exemple, si on prend hier les événements d'hier, ce n'est pas le bureau de coordination de l'AM.
Oui.
C'est une école.
Oui, comme
le bureau de coordination est impliqué d'une manière.
Non, parce qu'ils ont tenu leur conférence de presse hier.
Dans la mesure où vous l'avez dit, monsieur Nimara. Oui, je vous propose d'écouter ce son du secrétaire général, monsieur Togola, qui dit que beaucoup d'étudiants se cachent sous la coupe de l'AM pour commettre leur forfait.
Évidemment. Il faut reconnaître que les problèmes de sécurité éclatent en général. Généralement, l'AM est utilisé comme une couverture pour beaucoup de gens qui ont ce comportement de violence à l'école. Ceux-là qui font ce comportement, quand vous prenez la liste des membres de l'AM, vous n'allez trouver aucun nom de ces gens sur la liste de l'AM. Les membres de l'AM ne font jamais s'en donner à ces gens de comportement. Et l'AM même est pour accompagner les forces d'ordre. Ce que nous avons dit, nous avons tenu des conférences de presse pour ça. Nous avons dit à tous les étudiants de s'écarter des armes. Nous avons notre limite. Nous ne pouvons pas aussi prendre des armes pour combattre ceux-là qui ont des armes. Cela va donner tous les désordres à l'école. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer et interpeller les autorités.
Oui, monsieur Togo.
Oui, donc je disais que ce n'est pas seulement le bureau de coordination, parce que vous savez aussi, c'est l'intérêt de l'ensemble des élèves et étudiants. On ne peut pas, de façon décentralisée, mettre les bureaux, ça colle pas. C'est comme si on demande aujourd'hui à l'INTEM, donc il faut mettre des structures par secteur, ça ne marchera pas. Mais l'essentiel, c'est que l'État s'assume et que les parents d'élèves, je dis, nous sommes parents d'élèves, mais la réalité, c'est tout autre aujourd'hui. Mais le gouvernement ne veut pas assumer sa part de responsabilité pour sécuriser les élèves et étudiants et leurs biens. Alors donc, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre, et je continue et je revendique, je ne peux pas comprendre que dans ces universités, dans ces dortoirs, il y a des fusils, il y a des coupes-coupes avec tout le monde. Donc, je ne peux pas accepter. Moi, je ne peux pas comprendre ça.
Mais
donc,
oui, la question qu'on doit se poser également, c'est comment est-ce qu'ils obtiennent ces armes-là?
Mais ils achètent. Ils achètent. Mais aujourd'hui, non. Le Mali, parce que vous savez, depuis quelques années, l'insécurité est telle que, mais aussi, vous avez besoin des fusils. Vous le savez, ma fille, donc on peut l'avoir partout. Et aujourd'hui, là, on peut même acheter au marché ici. Et les coupes-coupes, je me souviens.
Ça se vend partout.
Avec ouais. 5 000 francs, 4 000, 3 000 francs, vous avez des coupes-coupes.
Ils sont financés.
Non.
Ces enfants-là sont financés.
Quand vous dites qu'ils sont financés, mais par qui?
Allez savoir.
Mais quand on donne 13 000
francs. Vous savez, les politiciens sont capables de tout. Les politiciens sont capables de tout. En quoi je les montre des doigts? Ces politiciens-là, ce sont eux qui, en réalité, arment nos enfants pour des intentions malsaines.
Mais est-ce que vous voulez dire par là que ce sont les politiciens qui les financent?
Mais ça veut dire que, bon, quand il n'est pas contre, quand l'opposition, je prends un exemple, hein, quand l'opposition veut faire créer du tort à la majorité, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est de pousser les autres maintenant à tout le temps se plaindre ou bien tout le temps à créer des activités
publiques. Je pense que c'est des préjugés parce que je ne pense pas que
non.
L'opposition.
Non, attendez, c'est mon vécu. C'est mal placé ici.
C'est mal placé.
Non, ce n'est pas mal placé.
Nous sommes de la société civile.
Non, pardon, moi je ne suis pas pour à la magistrature.
Mais aujourd'hui, vous le savez, les premiers responsables qui sont en train de perturber l'école malienne, c'est la majorité présidentielle.
Bon,
non, vous le savez. Non, vous le savez, moi je le sais. Tout le monde le sait.
Côté politique.
Non, vous le savez. Parce que vous avez parlé de l'Assemblée. Non, non, vous avez parlé de l'Assemblée nationale,
monsieur
vous
Togo,
le savez.
Monsieur Togo, oui, je vous en prie. Oui. Oui, monsieur, voilà, monsieur Loa. Oui.
Alors, si on se lance dans ce débat qui finance les politiciens, on ne s'en sortira pas.
Oui. Oui.
Il faut peut-être recentrer le débat sur comment faire pour que la crise cesse, pour que la violence diminue dans le milieu universitaire. En réalité, l'État doit s'assumer. Comme le disait tout à l'heure monsieur Togo, l'État doit s'assumer. L'État doit s'assumer. D'abord en essayant de couper les sources de financement de l'AIM ou en les réduisant au minimum. Ils doivent pouvoir le faire. C'est quand même l'État.
C'est le moyen de l'État.
Voilà.
Ils ne peuvent pas le faire.
C'est le moyen de l'État.
Mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire?
Ils ne peuvent pas le faire parce que les enfants, là, ceux qui ne sont pas dans l'ordre, interprètent, sinon font ce qu'ils veulent.
C'est pas normal.
C'est ce que je veux vous dire.
C'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qui n'est pas normal, justement.
Et ça, c'est les gouvernants.
Écoutez, moi, je suis de la société civile. En tant que parent d'élèves, je viens sur ce plateau, je me tais. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les enfants? Il faut que je dise le mal là où il est pour qu'on l'éradique une fois pour toutes. On ne peut pas soigner un mal par avec les machins qui l'ont causé, les remèdes qui l'ont causé. Oui ou non? Il faut que tout le monde s'assume maintenant pour dire non, attention, ne profitons pas de ça pour faire ceci, cela, parce que quand celui-là là, va partir du pouvoir, toi tu vas venir au pouvoir, l'autre là aussi va en faire la même chose. Et finalement, nous allons avoir un État irrégulier.
Oui, monsieur Nimaga, qu'avez-vous à dire par rapport à ça?
Bon, par rapport aux sources de financement, moi je pense que c'est vrai, lorsque l'État accorde des ressources à une association, il y a des critères. D'abord, il faut que l'organisation soit d'utilité publique. Bon, ensuite, lorsque l'organisation gère les fonds de l'État, je pense qu'ils doivent rendre compte. Je pense même le financement public accordé aux partis politiques, chaque parti rend compte à l'État, n'est-ce pas? Donc les partis qui ont mal géré le fonds, donc peuvent retourner le fonds. On peut leur demander de retourner le fonds. Mais est-ce que c'est le cas pour l'AIM? Est-ce que c'est le cas pour l'AIM? Moi, je pense que on doit rendre compte de l'utilisation des fonds alloués par l'État pour l'organisation de congrès ou des voyages des membres de l'AIM à travers le pays.
Comme souvenir, je me souviens en 1991-92, l'appui du gouvernement malien ne dépassait pas 2 millions à l'AIM pour l'organisation du congrès.
C'était de l'argent.
Non, je dis, c'est 2 millions, ça ne dépasse pas. Mais aujourd'hui, ça n'a pas évolué beaucoup. Mais aujourd'hui, en 1991-92, c'est 2 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes à 14 millions. Et il y a aussi des séminaires que l'État organise avec, qui les appuie. À un montant aussi, pour le Congrès, de façon générale, ils sont dans les 30 millions. Alors donc maintenant, si tout ça, on le met et qu'on gère les œuvres universitaires à 50 000 à 100 000 francs par jour, donc ça, c'est des millions. Et donc, le problème, c'est que je dis la gestion politique. Moi, je suis d'accord. C'est les hommes politiques qui vont gérer quelle que soit la situation. Mais la politique... Pour cette gestion politique, il faut que les hommes se donnent des directives et que les hommes acceptent d'assumer la responsabilité. Parce que pour moi, la politique, tout le monde peut être un bon politicien si on le veut, si on veut prendre l'intérêt de la nation. Mais si on veut donc critiquer tout simplement en critiquant l'ensemble des hommes politiques, ça pose problème. Moi, je me suis dit, ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État, ils sont les premiers responsables.
Oui.
Alors, monsieur Laoui,
absolument.
Allez-y.
Ils sont les premiers responsables, à commencer par le président de la République et tous ceux qui travaillent avec lui. Donc, diminuer considérablement la manne financière de l'AIM et exiger une traçabilité.
Voilà.
Vraiment. Où va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Et si l'argent est mal utilisé, eh bien, il faut que l'AIM rende compte. Et ça, c'est la première chose qu'il faut faire. D'abord, retirer, par exemple, la gestion des parkings. Parce que les parkings, vous avez parlé de ce qu'on donne pour le congrès. Les parkings aussi rapportent des millions.
Oui.
Vous imaginez le nombre de motos, le nombre de, par jour, le nombre de facultés, ainsi de suite. Donc, ça rapporte des millions. Donc, essayez de réduire cette manne financière et exiger une traçabilité. Et en cas de violence, vous l'avez dit tantôt, la justice doit faire son travail. Il faut qu'il y ait des sanctions. Je vais vous dire une chose. En 2016, il y a eu un cas de viol. Un cas de viol. La faculté, dans ma faculté, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, un cas de viol où la demoiselle qui a été violée, c'était un viol collectif.
Oui, c'est vrai.
Elle a porté plainte et après, il y a eu des pressions pour qu'elle retire sa plainte. Et elle a retiré sa plainte.
Mais d'où venait cette pression?
Là, je suis au courant. Bon, ça, je ne sais pas. Certainement que les parents étaient impliqués. Je ne sais pas qui exactement. En tout cas, les parents étaient impliqués dans ces pressions-là. On a mis pression sur les parents qui ont ensuite mis pression sur la fille et elle a été obligée de retirer sa plainte. Ça, c'est un cas, je suis au courant. Voilà. Et c'est un des individus qui ont été identifiés parce qu'il y a eu des témoins. C'était un viol collectif en pleine journée. Et c'était en plein mois de Ramadan.
C'est comme les morts.
Voilà. Ils ont continué.
C'est comme les morts enregistrés. En général, on rencontre les parents.
Voilà.
Pour Papou, je me souviens.
Et on gère à l'amiable.
Son père était un sacheur. On l'a donné de l'argent. Il a acheté des sotramas. Après, ça a été négocié. Donc, on a classé le dossier.
Et on gère à l'amiable. Les coupables ne sont pas sanctionnés. Donc,
je crois que vous-même voulez d'attendre tout ce qui se passe en réalité.
Ça, c'est l'État.
Nous, l'AM. N'est pas venu naître à notre insu. On a pensé que c'était eux qui pouvaient maintenant vraiment dire ce dont ils avaient besoin au niveau de l'école. Parce que nous nous sommes dit que maintenant c'est un enseignant qui était vraiment aux manettes du pouvoir. Et que vraiment ce monsieur-là allait être vraiment judicieusement, allait vraiment mettre nos enfants dans le bon canevas.
Mais selon vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à toutes ces violences-là?
Il faut que le politique cesse d'être à l'école. Que le politique cesse de profiter des enfants. Je dis le politique, c'est l'homme politique. Quand un président de la République comme Ibeka, ce n'est pas politique, ce n'est pas vraiment la politique politicienne, qui a été élu avec 77% de nos suffrages. Il ne nous doit pas des comptes. Est-ce que lui, il doit permettre à ce que vraiment de telles zizanies existent au niveau de l'école? Il doit interdire tout ça d'un coup. Parce que des perclus, des aveugles, des mendiants, tout le monde est allé voter pour ce monsieur-là. Donc il était vraiment doté d'un blanc-seing qui pouvait lui permettre de faire de mener toutes sortes d'activités et de cesser toutes sortes d'activités que parce que les Maliens le supportaient, le croyant lui. Mais ils n'ont rien dit. Au contraire, c'est eux-mêmes qui passent le temps pour chercher maintenant des machines de campagne. On pousse nos enfants à faire constituer des groupes, à faire ceci, cela. Ce n'est pas bon. Et moi, je vais lancer un appel à cet endroit-là, précis.
D'accord. Oui, M. Nimaga, selon vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à cette situation?
Bon, ce qui peut mettre à cette situation, il faut que chacun arrive à jouer sa partition, que les parents d'élèves jouent convenablement leur rôle, parce que c'est vrai, il ne faut pas seulement être dans un bureau de parents d'élèves, mais qu'aucune proposition n'est faite. Tout ce que M. Sissoko vient de dire, moi je pense que ça peut être fait à un document officiel adressé par exemple au ministre chargé de gérer les questions scolaires et universitaires. Mm-hmm. Est-ce que vous l'avez fait?
Ça c'est
une proposition. Ensuite, l'État a sa part de responsabilité aussi. La justice a sa part des responsabilités. Donc, nous, les enseignants aussi, nous avons notre part des responsabilités, dans la mesure où, à l'université aussi, souvent, les professeurs sont victimes de violences. Moi, je me souviens, notre chef, notre secrétaire principal, qui est un professeur, un jour, il a quitté son bureau, il voulait prendre sa voiture, il a trouvé que les quatre pneus étaient tous à plat, crevés. C'était dégonflé carrément par les étudiants. Donc je pense que la violence, c'est tout le monde qui est victime de ça.
D'accord. Bon.
Je pense qu'il y a trois responsabilités. D'abord, les parents d'élèves doivent s'assumer parce que ce n'est pas à l'État d'éduquer leurs enfants. Que chacun sensibilise son enfant et que chacun éduque son enfant. Parce que l'État ne descend pas dans les familles pour éduquer les enfants. Que ce soit très, très clair. Deuxièmement, je suis parent d'élèves. J'ai le droit donc, de dire à mes enfants ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et deuxième aspect de la chose, c'est l'État. Il faut que l'État assume la responsabilité de ce qu'on l'a confié. Parce que l'État, la justice, tout ce qui se passe dans ce domaine-là, la responsabilité de la sécurisation des personnes et des biens, il faut que l'État s'assume. Parce que le peuple malien a voté pour un responsable d'État qui a la solution en main. S'il est incapable, qu'il les rende compte au peuple malien. Et troisième aspect des élèves et étudiants, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des limites.
Oui.
Ça veut dire que si on est élève et étudiant, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. La loi doit être appliquée. Et que des divergences, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser, nous sommes d'accord, le consensus, la loi, c'est quoi? C'est le consensus, des règles de vie. Et ces règles de vie, là, il faut que tout le monde accepte d'appliquer. S'il n'applique pas, que la justice fasse son travail.
D'accord, oui, M. Louaka, vous ajoutez.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que M. vient de dire. Justement, j'allais dire, on a parlé de la responsabilité de l'État, des parents d'élèves. Il ne faut pas oublier la responsabilité des étudiants eux-mêmes, parce que ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des bébés, ce sont des adultes. Donc, ils ont aussi leur part de responsabilité dans ces affaires de violence. On a vu l'image hier, le monsieur, il a regretté. Il était en train de gisser dans son sang et il proférait des paroles. Il allait mourir comme ça, il avait regretté.
Donc,
il fallait y penser avant. C'est ce que moi, je lui aurais répondu par exemple. Donc, les étudiants doivent savoir qu'ils sont à l'école d'abord pour étudier. Ils ne sont pas à l'école pour se tirer dessus. Ils ne sont pas à l'école pour occuper des postes dans l'AIM. Ils ne sont pas à l'école pour s'armer. Ils sont là pour étudier. Donc, les études doivent être les premières préoccupations des étudiants. Donc, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Les enseignants aussi ont une part de responsabilité, même si nous sommes victimes. Je suis enseignant. Nous devons aussi jouer ce rôle de sensibilisation. Parce que les enseignants doivent prendre la relève des parents. Parce que enseignants doivent prendre la relève des parents. Les parents doivent jouer leur part de responsabilité en essayant de sensibiliser les enfants. Mais M. Sissoko l'a dit tantôt, les enfants n'écoutent plus les parents. Et ça depuis très longtemps et depuis le très 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 jeune âge.
Ça dépend.
Les enfants n'écoutent plus les parents. Bon, on parle d'un cadre général. Quand on prend des exceptions, on va forcément trouver des exceptions. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Les enfants n'écoutent plus les parents. Même les enfants, à plus forte raison, les étudiants à l'université. Parce que il y a des intérêts qui dépassent l'autorité des parents. Donc tant que ces intérêts restent en jeu, ils ne vont pas écouter les parents.
Ils ne vont pas écouter.
Donc, les enseignants aussi doivent jouer ce rôle de sensibilisation. Même si nous sommes victimes, nous devons prendre de la hauteur pour essayer de sensibiliser les étudiants, leur montrer pourquoi ils sont à l'école. Et souvent, les étudiants nous disent, moi personnellement, les étudiants du BM, monsieur, nous voulons devenir comme vous. Nous voulons devenir professeur, nous voulons voilà, avoir un doctorat. Mais il faut travailler. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas sorcier, il faut travailler, c'est aussi simple que ça. Et quand on met le travail comme première préoccupation, eh bien, on peut relever le défi. C'est aussi simple
que
ça.
Merci, monsieur Louet. Cela me fait à ce débat sur les violences au milieu scolaire. Un grand merci à nos invités. Noun Togo, ancien membre de l'AIM, du Gamedi Sissoko, de l'Association des parents d'élèves, Dr Sédou Loua, pédagogue, professeur Nimaga, Madou Nimaga, juriste. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Sidoumbo, la régie vidéo est assurée par Salim Duhara. C'est une réalisation de Moumine Sénégou, une coordination de Mohamed Touré.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Demandé.
Chenne Berry. Siki Kafoba.
Le grand dialogue.